Hop là.
Pas vrai. Ine. Shalom Ouvracha, c'est revenu. Voilà. Voilà, voilà. Ça va mieux. Allô, allô. Shalom, shalom. Il y a quelqu'un? Houston. Mesdames, shalom, shalom. Dites-moi si on peut commencer notre shiur. Hop là. Donc voilà, faites-moi juste un tout petit signe pour me dire si on peut commencer. Voilà. Yofi, Adassa est là. Comment vas-tu, Adassa? Tu ne m'as pas raconté ton Shabbat. Je suis très, très, très choqué que tu ne m'aies pas raconté ton Shabbat dans le Nord. Alex, toi, tu es là, mais tu n'es pas une femme, donc ce n'est pas à toi que je m'adresse ce matin. Mesdames, est-ce qu'on peut commencer? Alors, les amis, nous en sommes dans notre dernier chiour, dans la névoa, dans tous ces états. Alors, pas dans le dernier chiour de la névoa, évidemment, mais le dernier chiour du Sefer Shoftim. Voilà, nous terminons Sefer Shoftim aujourd'hui et nous allons nous intéresser au chapitre 19. Arrête Alex, je m'adresse tout le temps à toi. Nous allons nous intéresser donc au chapitre 19 du livre de Shoftim, Perek Yutet de Sefer Shoftim. Alors c'est parti. On a étudié dans le livre de Shoftim le début du livre pour montrer quelle était la situation compliquée, la situation de séparation entre tribus. Ensuite, on s'est intéressé à l'histoire de Gideon pour s'intéresser finalement à l'histoire de Shimshon. Aujourd'hui, nous venons conclure le livre de Shoftim avec une histoire absolument terrible. Une histoire absolument terrible, mais qui va également marquer, dans sa douleur, le début de la réunification du peuple juif. Et donc, nous allons nous intéresser ce matin à l'histoire qui s'appelle Pilegesh Bagiva. Alors, je vous dis tout de suite, âme sensible, s'abstenir. C'est-à-dire, c'est une des histoires les plus glauques du Tanakh, une des histoires les plus compliquées à comprendre, pas dans les mots sont très simples, mais le message qui est donné ici et qui nous montre quelle était la situation du peuple juif à l'époque est absolument terrible. Alors, je vous propose d'y aller. « Vayi bayamim ahem umelech ein beYisrael » Le fait qu'on commence par cette phrase « Et en ce temps-là, il n'y a pas de roi dans le peuple juif », eh bien, ça montre que c'est ça qui manque. Donc, c'est vers cela qu'il va falloir aller. « En ces temps-là, il n'y a pas de roi en Israël. »« Vayi bayamim ahem umelech ein beYisrael »« Vayi ish levi » Il y a un Lévi dans l'histoire. Gar beyarkete har Ephraim. Il habite donc dans les montagnes d'Ephraim, c'est-à-dire au-dessus, au nord, on va dire, de Ramallah. Vaikar lo isha pilegesh. Mi Bethlehem Yehuda. Il ne se marie pas, justement. Il prend une pilegesh. Oui, bah, attends, Binyamin se fait quasiment décimer. Deux secondes, on vient de commencer. Tu parles de la fin du jeu. On parle de quelqu'un qui va se, je ne vais pas dire paxer, non, ce n'est pas comme ça que ça marche, mais il va être en couple avec une femme de Bethlehem Yehuda, et c'est une pilegesh. Et là, il faut comprendre tout de suite que ça montre la situation extrêmement faible, moralement parlant, de cette époque-là. Car il y a, à l'époque de la Torah, deux façons de, si vous voulez, régulariser le couple. Soit on est marié, soit on a des pilakshim, des concubines. Quelle est la différence, techniquement, halakhiquement parlant, entre une mariée et une concubine? Eh bien, c'est très simple. Du point de vue de l'homme, la pilegesh, la concubine, c'est tous les avantages sans les inconvénients. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une femme qui est obligée de rester avec lui, mais lui n'a pas vraiment d'obligation envers elle. C'est une situation qui est extrêmement précaire pour elle. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle accepterait quelque chose comme ça? En général, une pilegesh à l'époque, c'est quelqu'un qui, pour des raisons X ou Y, ne serait, entre guillemets, pas mariable. C'est-à-dire que pour l'époque, en général, c'est quelqu'un qui a perdu sa virginité. Et donc, plus personne ne veut se marier avec elle. Par contre, il y a des gens qui vont la prendre comme pilegesh. Comme ça, elle, elle accepte dans la mesure où elle, bah, va quand même recevoir le gîte et le couvert. Et donc, pour elle, c'est mieux que de rester toute seule. Oui, c'est pas top top. Évidemment, ça montre une bassesse morale assez évidente. Le Rav Kook va expliquer quelle est la différence. Pourquoi est-ce qu'un homme qui est marié va prendre des pilakshim alors qu'il peut se marier avec d'autres femmes? Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre marié et pilegesh? Dit le Rav Kook qu'à l'époque, les gens avaient une compréhension beaucoup plus profonde de leur identité et donc ils savaient quelle était la femme avec qui ils avaient un lien nishmati. Et c'était les femmes avec qui ils se mariaient, et les femmes qui ne servaient qu'à la reproduction pour avoir plus d'enfants. C'était les concubines. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que cet homme-là, il n'a pas de femme. Il n'a que une pilegesh. On va voir que l'homme qui est au centre de l'histoire, bien que Lévi, et bien que voulant se faire passer pour un tzaddik, est quelqu'un qui montre une bassesse morale évidente, mais qui ne va faire que révéler la bassesse de l'époque. Et cette bassesse est due au fait qu'il n'y a pas de sentiment de cohésion. Alors allons-y. Veigar lo isha pilegesh mi bet lechem Yehuda. Vatizne alav pilakshu. Vatelech mi ito el bet avia el bet lechem Yehuda. Vateisham yamim arba chodashim. Elle s'est mal comportée avec lui. Le Torah nous dit, va tisner à lave, qu'elle aurait été couchée avec quelqu'un d'autre. Seulement, Tosfot nous dit que ce n'est pas qu'elle a été vraiment couchée avec quelqu'un d'autre, c'est juste qu'elle ne lui a pas montré un respect fantastique pendant un Shabbat, je ne sais pas quoi. En gros, ils se sont disputés. Et elle est partie, repartie chez son père. Tov, nounou, va yikam, va yakam, c'est à Isha, donc à Ish, Shela. וילך אחריה לדבר על ליבה להשיבה ונערו עמו וצמד חמורים ותביאו בית אביה ויראו אבי הנערה וישמח לקראתו. On voit ici que cet homme, c'est lui qui va, c'est-à-dire, a priori c'est elle qui a fait quelque chose de pas bien, mais c'est lui qui va quand même finalement aller la chercher au bout de 4 mois. De là, nos sages vont expliquer dans le Talmud que ce qu'elle elle a fait de pas bien n'était qu'une réponse à ce que lui faisait de mal. Et qu'est-ce qu'il faisait de mal? Eh bien, il se comportait bekas ou bealimut avec elle. En d'autres termes, on voit un homme ici qui n'a aucun respect pour celle qui est censée construire avec lui la vie. Et donc, elle est partie. Lui, il comprend peut-être qu'il y avait un problème, ou alors, tout simplement, bah, il se sent seul, et donc, il décide d'aller la chercher. À ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, voilà. Vaï bayom arevi, j'ai sauté un verset. Lorsqu'ils arrivent, le père de la jeune fille est très heureux de le voir. Et là, il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. L'ambiance de l'époque, il est très simple. Pour le père, il a envie que sa fille soit avec quelqu'un. Il sait très bien qu'une femme qui a déjà connu un homme ne va pas se marier avec un autre homme. Personne ne voudra d'elle. Donc, pour lui, c'est la seule chance que sa fille soit avec quelqu'un. Donc, il est content de le voir arriver. Il est. ויחזק בו חותנו אבי הנערה וישב איתו שלושת ימים ויאכלו וישתו וילנו שם. Donc le beau-père dit à son gendre, écoute, reste ici, je suis tellement content que tu sois là, et il lui fait un festin pendant 3 jours, histoire de, quoi qu'il arrive, de désamorcer la situation qui aurait pu commencer. Il reste là pendant 3 jours, il semblerait que le beau-père il comprend qu'il y a un truc qui n'est pas net dans l'histoire. ויהי ביום הרביעי וישכימו בבוקר ויקום ללכת ויאמר אבי הנערה אל חותנו סעד ליבך אל חותנו סליחה סעד ליבך פת לחם ואחר תלכו וישבו ויאכלו שניהם יחדיו וישתו ויאמרו אבי הנערה אל האיש אוהל נא ולבלים ויטב ליבך. Il lui dit, et finalement le troisième jour, il lui fait, le quatrième jour au matin, il lui fait à manger et tout. Il lui dit, écoute, tu vas pas partir comme ça le ventre vide, ressors-toi machin, après tu partiras. Et quand la journée a bien commencé, il lui dit, écoute, il est déjà tard, allez, reste ici. Et il reste. Finalement, וישוב אכלו שניהם ואחדיו וישתו ואומר אבי הנערה איש אל הנער וילין ויטב לבר ובחתרה וקום האיש ללכת ויפצח בו חתנו וישוב וילין שם והשכם בבוקר ביום החמישי ללכת ויאמר אבי הנערה סעד נא לבך והתמהמהו עד נטות היום וילכו שניהם וקום האיש ללכת הוא בלקשו ונערו ויאמר לו חתנו אבי הנערה הננה רפה היום לערוב לינו נא הנה חנות היום לין פה ויטב לבביך והשכמתם מחר לדרככם והלכתם לאהליך. וסנקטם ז'ור, לבופר, לו דייקו אותך, סנקו יפה למם טרוק. תשובוע כאילו אנבי קירסט, אי פנס כסיל פאר, סנא מרשרה פא. מפינלמון אי פאר פא, איפה פאר רסטי. אי פאר רסטי, אי סן ואה. אי סן ואה פסקו נוטרום דהר אפרים, אילה פרובלם, אי אונבה לבואר בוקו פליטר. Avec Béné Yehuda. Il semblerait que Béné Yehuda, ce n'est pas des gens avec qui on a envie de rester. On va voir pourquoi. Finalement, il dit non, je pars. Velo ava aish la lune vayakom vayelech vayavo ad nochach yevus hi Yerushalayim. Veimo tsemet hamorim chavushim upilaksho imo. Ils arrivent donc, ils ont marché depuis Bethlehem, ils ont commencé à marcher. Déjà vers 4-5 heures, quand le soleil commençait à se coucher, et ils sont partis. Où est-ce qu'ils vont? Eh bien, ils vont Be'ar Ephraim. C'est-à-dire que, essayons deux secondes de vous imaginer la carte. Ils partent de Bethléem, au sud de Jérusalem, et ils veulent aller au nord, vers les montagnes d'Ephraim, on a dit au-dessus de Ramallah. Là, ils arrivent, d'après le texte, au coucher du soleil Mamash. Donc, ils ont marché quoi? Une heure, deux heures, c'est tout. Et ils arrivent, im yevus. Vayom rad me'od, c'est-à-dire qu'on est mamash kimat au coucher du soleil. Et donc à ce moment-là, eh bien ils arrivent à l'endroit où on peut voir Jérusalem. Où est cet endroit? הם עם יבוס והיום רד מאוד, ויאמר הנער אל אדוניו, לכנה ונסורה אל עיר היבוסי הזאת ונלין בה. Donc, son serviteur qui est avec lui, il dit, regarde, il fait presque nuit, regarde là-bas, il y a la ville Yevus, viens, on va dormir là-bas. Où sont-ils? Eh bien, c'est très simple. Dai! Bekitsour, ils arrivent donc, depuis Bethléem, en fait, ils ont marché tout le Derer Bethléem, c'est la rue Derer Bethléem aujourd'hui, eh bien, c'est Derer Bethléem qui va se rattacher à Derer Hebron, eh bien, ça va jusqu'à Bethléem, ensuite à Hebron. Eh bien, ils vont marcher donc dans toute cette rue-là, très long, pendant une bonne heure et demie, et ils arrivent au bout de Rechov Derer Bethléem, c'est-à-dire, ils arrivent à Gan HaPa'amon, pour ceux qui sont un petit peu jérusalémiens. Ils arrivent au Gan HaPa'amon, au bout de Emek Rephaim. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors, pour ceux qui connaissent là-bas au Gan HaPa'amon, il y a une espèce de fontaine comme ça. Une fontaine avec des statues de lions. Zéboul, à cet endroit-là qu'ils arrivent. Ils arrivent exactement à cet endroit-là, car de là, avant que la mairie ne plante des arbres et ne construise des hôtels et machin, eh bien, tu peux de là voir la colline de Ir David, au loin. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont là et ils voient Yevus, Jérusalem, Ir David. Au loin. Et donc, ils sont là à Gan HaPa'amon. C'est la frontière entre la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin. C'est-à-dire, quand tu arrives de Bethléem Yehuda, tu arrives à Gan HaPa'amon, eh bien, tout ce qui est derrière toi, c'est la tribu de Yehuda. Tout ce qui est devant toi et à droite, c'est Binyamin. Donc, ils arrivent vraiment à la croisée des chemins. Le plus proche, c'est d'arriver à Ir David. Dans une heure, ils y sont. Même pas, une demi-heure, ils y sont. Et il va répondre quelque chose de très important. Il dit, pas du tout, mamashlo. Il dit, non. Alors, il dit, vayomer elav, verset yudbet, vayomer elav, adonav, lo nasur el ir nochi, asher lo mibnei Israel henna, veavarnu ad giva. Il dit, mais ça ne va pas la tête. Je ne vais pas dormir dans une ville de non-juifs. C'est-à-dire que n'oublions pas qu'à cette époque-là, Yévous, c'est encore une ville cananéenne. C'est la dernière ville cananéenne qui reste, puisque Yehoshua n'a pas réussi à conquérir Yévous. En d'autres termes, il dit, moi, j'ai beaucoup trop d'estime pour le peuple juif pour aller dormir chez des goyim. Bon, il faut comprendre qu'à l'époque, on a quand même une situation de guerre. C'est une situation qui n'est pas claire entre les habitants cananéens et les juifs qui sont en Israël. Donc, on peut comprendre sa réflexion. Mais on voit ici que c'est un homme qui a une bassesse morale évidente, il a une pilegesh et tout ça, mais qui a un sentiment profond pour le kavod du peuple juif. C'est ça qui l'anime. Au-delà de toutes ces avérotes, c'est ça qui l'anime. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il dit non, on ne va pas aller là, on va aller à Giv'a. Alors, c'est où Giv'a? Alors, ce n'est pas Giv'a Shmuel, ce n'est pas Giv'a Zev. Giv'a, c'est ce qu'on appelle en archéologie Tel El Ful, ou en bon français, Pisgat Zev. Voilà, quand tu arrives à Pisgat Zev, Merkaz, c'est ce qu'on appelle là-bas Tel El Ful. Bon, c'est à côté, quoi. Mais c'est là-bas Giv'a. C'est la ville de Givat Binyamin, dans la tribu de Binyamin. C'est ce qu'on va appeler Givat Shaoul, pas de Jérusalem, mais la Givat Shaoul de Shaoul, qui vient de Binyamin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, il se dit, non, on ne va pas aller là-bas, on va remonter Kvish Mispar Echad, on va passer par les Mélonotes, et on va prendre le Kvish Begin, et on va monter, machin, et on arrive à Giva. On en a pour un bon 3 heures de marche. Bon, on est à Dodan, disons qu'en 1h30, on l'a fait. Je préfère marcher un peu plus, mais aller dans une ville juive. Donc, on voit ici qu'il y a un vrai souci nationaliste. Et qu'est-ce qui se passe? Vayomer le Naharo, lecha venikreva be'achat amekomot velanu bagiv'a o barama. Si on n'est pas, si on ne peut pas trouver à Giv'a, on ira à Rama, c'est une autre ville qui est à côté. Vayavru, vayelechu, vatavou, lahem ha-shemesh etzel ha-giv'a. Asher le Binyamin. Donc ils sont arrivés finalement, ça y est, il fait nuit. Vaya surusham lavo la lune begiv'a, vaya vo vayeshev birchov ha'ir, ve en ish me'asef otam abayta la lune. Ils arrivent birchov ha'ir. Mazer rechov ha'ir, ce n'est pas comme nous on dit aujourd'hui la rue. Rechov, c'est kikar. C'est la place centrale de la ville. C'est ce qu'on appelle, pourquoi est-ce qu'on appelle ça rechov? Kizemakom rachav. Donc ils arrivent sur la place de la ville, la place du village, et ils attendent que quelqu'un soit suffisamment sympa pour les inviter à dormir. Ça se fait. Mais ish, personne ne les invite à venir dans la ville, se reposer. Donc ça commence à montrer qu'il y a un problème à Giv'a. Un problème de quoi? De Arnasat Ochim. Un problème de Chesed. Et vous allez voir que plus on va se rapprocher, plus on va continuer à lire cette histoire, et plus cette histoire va sonner connue. Et peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà reconnu l'histoire. Des gens qui sont des étrangers, qui arrivent dans une ville, et personne ne veut les inviter à dormir, et ils disent, bon, c'est pas grave, on va dormir dehors. Évidemment que ça sonne connu. Ça sonne Sdom. Et en fait, toute l'histoire qu'on va lire maintenant ressemble comme deux gouttes d'eau à Sdom. On parlait tout à l'heure de chute morale du peuple juif. On en est arrivé à être sdomim. Venez, on va comprendre de quoi il s'agit. Veine ish zaken ba miman maaseu min asade ba erev ve ish me'ar Ephraim ve hu gar ba giv'a ve anshe ha-makom b'nei yemin. Ha! Il y a un homme, un vieil homme, qui arrive min asade, mais il ne fait que être résident temporaire à Giv'a. En fait, cet homme, il vient lui aussi de Har Ephraim. Il n'est pas de la tribu de Binyamin, il est de la tribu de Ephraim et il n'est que résident ici temporaire. Comment c'est possible? Comment c'est possible à l'époque que quelqu'un n'habite que temporairement dans une ville? Et tout simplement, cet homme, il vient de Har Ephraim, donc sa nachala, le pays qu'il a, enfin la terre qu'il a reçue en héritage, c'est dans la tribu de Ephraim. Mais ça veut tout simplement dire qu'il s'est marié avec une fille de la tribu de Binyamin qui n'avait pas de frère et qui a donc hérité de la parcelle de son père. Et donc lui, maintenant, a hérité d'un champ qui n'est pas dans sa tribu, qui est d'Abinyamin, et donc de temps en temps, il vient chez Binyamin. Mais tu vois qu'il y a un grand problème, il n'est pas le bienvenu vraiment ici non plus. Les Binyaminites ont un vrai problème avec les étrangers. Agave, il y a des raisons historiques à cela. N'oubliez pas que Bnei Binyamin sont les seuls qui ont encore des Cananéens dans leur territoire, puisque ce sont chez les Binyaminites qu'il y a eu l'histoire de Givon. Donc on a des Cananéens qui habitent dans la tribu de Binyamin et qui n'arrêtent pas de saouler les Juifs. Donc on peut comprendre qu'ils aient un ressentiment par rapport aux étrangers. Bekitsour, cet homme-là, d'ailleurs entre parenthèses, ou Bamina Sadeh, il est marqué ici, Veine Ish Zaken Bamina Maaseh Mina Sadeh Baerev. Vous savez, la Mishnah, elle nous dit, Adam Bamina Sadeh Baerev, Venichnas Lebet Knesset. Donc, quand quelqu'un a fini la journée de travail, il rentre à la synagogue. S'il a l'habitude de lire la Torah, alors il lit la Torah. S'il a l'habitude d'étudier les Mishnah, il lit la Mishnah. C'est intéressant que la Mishnah, elle ne nous a pas dit quand l'homme il revient de la yeshiva ou du kollel le soir, alors il va étudier la Torah à la synagogue. La Mishnah, elle ne savait pas qu'on pouvait aller au kollel toute la journée. La Mishnah, elle a dit quand quelqu'un il rentre du travail, alors il va étudier la Torah. C'est-à-dire que oui, à l'époque, on étudiait tous la Torah. Quand ? Une heure, une demi-heure. Quand on était à la synagogue le soir, après la journée de travail. Évidemment, comment tu vas aller au kollel, Max, qui va te financer, vu que c'est interdit de prendre de l'argent pour étudier la Torah. Donc, cet homme-là, il dit, « Ine, vaïsaena vayar et aish a oreach berchov a'ir, vayomer aish azaken, anna teler omea intavo. Vayomer elav, ovrim anachnu mibet lechem Yehuda ad yarketa refraim, misham anochi, ve'elech ad bet lechem Yehuda ve'et bet Hashem. והלך עד בית לחם יהודה ואת בית השם אני הולך ואין איש מאסף אותי הביתה. Donc qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ce monsieur? Il dit où tu vas? Bah il dit je viens de Bet Lechem Yehuda mais je vais à Ephraim el Beit Hashem. Donc où est-ce qu'il va le monsieur? Bah, le monsieur il va à Shiloh. Il va au Mishkan. Mais personne ne m'a invité. C'est-à-dire que cette paracha nous met l'accent sur le grand problème qu'on a dans le peuple juif à ce moment-là, c'est ce sentiment de chacun pour soi. Ce sentiment de chacun pour soi va être le fil conducteur, a été le fil conducteur de tout le livre de Shoftim, et il est temps de régler ce problème-là. Alors allons-y. Veine, il lui dit, t'inquiète pas, וגם תבן וגם מספוא יש לך מורנו וגם לחם ויין יש לי ולאמתך ולנער עם עבדך אין מחסור כל דבר. T'inquiète pas, je ne suis pas là pour prendre tes réserves. J'ai à manger, j'ai à boire, tout va bien. Yomer Aish Azaken, Shalom Lach, Rak Kol Marsorcha Alay, Rak Baruchov Altali. Ne t'inquiète pas, je t'invite, il n'y a pas de problème. Ils sont tous les deux de Har Ephraim. Donc il y a une sympathie qui se met en place entre les deux, mais il dit surtout, ne dors pas dehors. Il semblerait que ce Zaken, mais Har Ephraim, qui habite ici, sait très bien comment les gens de Giva se comportent avec les étrangers. Veine. הנה, ורסה כף א', ויביאו לביתו, ויובל סליחה לחמורים, ויחצו רגליהם, ויאכלו וישתו. הם המטיבים את ליבם, והנה אנשי העיר, אנשי בני בליעל, נסבו את הבית, מתדפקים על הדלת, ויאמרו אל האיש בעל הבית, הזקן, לאמור, הוצא את האיש אשר בא אל ביתך ונדענו. Voilà. On a parlé tout à l'heure d'être un copier-coller de Sdom. Et ben voilà. Copier-coller de Sdom. Ils sont à la maison. Et là, les hommes de la ville viennent voir le Baal HaBaït et disent « Sors l'invité qui est chez toi, qu'on le connaisse, bibliquement parlant. » C'est pas chou de Sdom. Mamash kacha. Je veux dire, tu peux pas descendre plus bas. Cette paracha-là, chapitre 19 du livre de Shoftim, c'est la déchéance, la décadence la plus grande que le peuple juif va vivre dans toute son histoire. C'est-à-dire qu'on est au plus bas. Tu ne peux pas aller plus bas. Et c'est de ce plus bas que va naître le début de la réparation. Puisque c'est de ce plus bas-là, comme j'ai dit, que va naître le début de l'union du peuple juif. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Regardez, la suite est absolument insoutenable. ויצא עליהם האיש בעל הבית ויאמר עליהם על החי אל תראו נא אחרי אשר בא האיש הזה נו לא פרפה פה סמון אביתה אל תעשו את הנבלה הזאת הנה ביתי הבתולה ופילגשהו הוציאה נא אותם ואנו אותם ועשו להם הטוב בעיניכם ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת. On est dans le même délire, mamash, comme avec Lot, qui dit, bon, bah, ça va, j'ai deux filles, prenez-les. Et là, le mec, il dit, j'ai une fille, et lui, il a une pile à guêche, et alors, on vous les sort, faites-vous plaisir. Ça va bien? Tout le monde va bien? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? À l'époque de Lot, on peut comprendre, il y a une perversion fantastique à ce dôme, mais lui, on est dans le peuple juif. Nous, on réagit comme ça. S'il en est à réagir comme ça, ce Ish Zaken, Mehar Ephraim, c'est qu'il sait très bien que sinon, ils vont venir, ils vont Bémet casser la porte, ils vont venir prendre le mec. C'est-à-dire qu'il est conscient de la chute morale terrible de Béné Binyamin. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben voilà. Ine. Velo avoua anashim lishmo alo, vaychazek haish bepilakcho, ויוצא עליהם החוץ, וידעו אותה, ויתללו בה כל הלילה, עד הבוקר, וישלחוה בעלות השחר. פדמו. L'homme, il a pris sa pile à gèche, il l'aura balancé comme un nonos au chien enragé, et ils vont la violer toute la nuit. Au petit matin, ils se sont calmés, ils ont dit, elle est rentrée là. Absolument insoutenable. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, le mec, il a bien dormi. Il est. Va t'avoir à Isha, l'ifnot boker. L'ifnot à boker, va t'ipol petar betaïch. Asher a donné à Sham, à Daor. Va yakom a donné à Bob boker, va yftar de la tot à baït, va yitzel à l'echet de darko. Vina Isha, pilakjon, ofelet petar à baït, va yadea à la saf. C'est-à-dire, le mec, il avait quand même prévu de partir. Le mec, il a dit, bon, ça y est, je vais dormir. Allez, au boulot, on y retourne. C'est-à-dire que sa pile à gèche, ben, il pensait que c'était fini. Il pensait qu'il ne la reverrait jamais. Tu vois qu'il n'a pas vraiment, vraiment une grande estime pour elle. Ce mec-là, ce n'est pas un tzadik. Hein. C'est un rachat gadol. Qu'est-ce qui se passe? Il la voit. Ben, à ce moment-là, il dit, ah bon? Ah, t'es là, toi? Vayomer Elea Kumi. Vemnelecha ve einone. Et tu m'étonnes, Chazal nous dit qu'elle est morte. Après tout ce qu'elle a vécu cette nuit. Venone, Tov, nous, à ce quoi? Alors, tu réponds pas? Vaikache à la chamor, vaikom à ish, vaikach l'imkomo. Vaikavol beto, vaikach et amachelet, vaikhazek bepilakcho, vantache à la tsamea, lishne masar netachim, vaikhalchea bechol gvoul Israël. Tiens, le mec, il la ramène chez lui. Et quand ils arrivent à la maison, il la pose sur la table, il prend son couteau de cuisine et il va la couper en 12 morceaux. Quand je vous dis qu'on est dans l'histoire la plus basse de basse, et il envoie chaque morceau à une des tribus d'Israël. Enfin, juste un problème, c'est que Lévi, ça compte pas. Et évidemment que Binyamin, il ne va pas leur envoyer quelque chose. Donc, ça ne fait plus que 11. Reuven, Shimon, donc Lévi, non, Yehuda, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zvulun, Binyamin, Ephraim ou Menaché. Donc on est bon. D'accord. Sauf que Binyamin en a dit que non. Donc il n'y en a plus que 11. Oui, mais Menaché, il est obligé d'envoyer deux parties. Une pour ceux qui habitent de l'autre côté du Jourdain et une pour ceux qui habitent de ce côté du Jourdain. Donc 12 parties. En fait, il veut rassembler tout le peuple juif. Et j'imagine qu'il y avait une petite lettre avec. Puisque regardez, Veshalcha avrol vutzal veraya kol haroe veamar lo nieta velo nirata kazot miyemot alot bnei Yisrael meretz Mitzrayim ad hayom hazeh. Simu lachem alea atzu vedaberu. En gros, il a mis un message avec. Regardez ce que les Bnei Binyamin ont fait. En fait, il raconte toute l'histoire. Que les Bnei Binyamin sont devenus Anshei Sdom. Ce que lui fait est terrible. Ce mec, c'est un rachat gamour. Mais il révèle un problème beaucoup plus global dans le peuple juif que portent les Béné Binyamin. Cette histoire est marquée à la fin du livre de Shoftim, mais elle se passe au début du livre de Shoftim. On va le voir tout de suite, parce qu'on va rencontrer la personne de Pinchas. Donc si Pinchas est toujours là, c'est qu'on est vraiment au début du livre de Shoftim. Pourquoi est-ce que c'est marqué à la fin? Parce que ce qui va en sortir, c'est la réunification du peuple, qui est, on va dire, le point de départ au livre de Shmuel. Mais on voit ici que Béné Binyamin sont en train de porter sur eux la plus grande déchéance du peuple juif. Et c'est face à cette bassesse morale que Am Israël va s'unir. Et ce qu'on veut nous apprendre dans ce chapitre-là, ce qu'on veut nous apprendre dans cette histoire, c'est que l'union du peuple juif se fait d'abord dans la douleur. Regardez. Vaïtse kol bene Israël. Vaïtkael aeda ke ish echad le medan vead ber sheva. Veeretz agilad ad Hashem a mitzpa. Tout le monde arrive à Mitzpah. Mitzpah, semble-t-il, être là où il y a aujourd'hui le kever de Shmuel Hanavi. Vaïtiatsevu, pinot kol ha'am, kol shifte Israël, bikal am, a Elohim, arba meot elef ish ragli sholef rarev. 400 000 juifs se réunissent pour partir en guerre contre les Bnei Binyamin. Alors, est-ce que les chiffres sont exacts? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y a ici la réunion du peuple juif. Pourquoi? Pour faire face à cette bassesse insoutenable du peuple juif. Et oui, quand un Israël est en danger, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, alors il se réunit. Les bases de la réunification du peuple juif sont dans la tourmente. Comme on a vu en Égypte, comme on verra juste après avec Shaoul et David. Comme disait le Rav Israël Meir Lao, qu'à Auschwitz, le peuple juif a été capable d'apprendre à mourir ensemble. Il va falloir maintenant apprendre à vivre ensemble. Rabotai, cette paracha du Sefer Shoftim, chapitre 19, est le point de départ de la réunion du peuple juif. Malheureusement, elle se fait dans les larmes et dans la douleur, et dans le sang. Mais c'est le point de départ de ce qui va finalement arriver, amener à l'identité globale d'Israël. Regardez. Vaishmo bene Binyamin ki alu bene Israël a mitzpa vayomru bene Israël dabru echa ni et arabazot. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous nous attaquez tous comme ça? Vayani ish alevi ish aisha nirtzacha vayomar agivata asher le Binyamin bati ani upilak shil alun vayakumu alai bene agiv'a vayasobu alai et abayit laila oti dimu laharog ve'et pilakshi. Et nous, le tam vatamot. Il raconte l'histoire, le mec. Voilà ce qui est arrivé avec les Bnei Binyamin. Il raconte à qui? Au Bnei Binyamin. Pourquoi? Pour avoir une réaction de leur part. Évidemment. Vaorez bepilakshi, veanatachea, vechalchea, bechol sede nachalat Israël. Ki asuzi maun nevela be Israël. Inne kullechem bene Israël. Havu lachem davar veet saalom. Vaakom kol ha'am ki ish echad. Lemor lo nelech ish le'alo. Velo nasur ish lebeto. ואתה זה הדבר אשר נעשה לגבעה עליה בגורל. ולקחנו 10 אנשים למאה לכל שבטי ישראל, ומאה לאלף ואלף לרבבה, ולקחת צידה לעם לעשות לבועם לגבע בנימין, לכל הנבלה, ככל הנבלה אשר עשה בישראל. ויאסף כל האיש, כל איש ישראל, אל העיר, כאיש אחד חברים. On est en train de voir, ça y est, la réunification du peuple juif. On n'est plus en tribu, c'est Ish Israël. Et c'est très important de comprendre que le point de départ de l'union du peuple juif se fait sur un problème moral. On va voir que ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas au début? Parce qu'Am Israël, lui aussi, n'est pas au niveau moral. Mais le fait que ce qui pousse à se réunir, c'est sur un problème moral, nous montre la voie. Nous montre que la réunification du peuple d'Israël, idéalement parlant, c'est sur une base morale. Bien plus tard, lorsqu'on verra cet autre rachat gamour, Hitler y marche chez moi, eh bien, dira notre Hitler dans un livre qui s'appelle « Hitler m'a dit ». Lorsque il y a un général allemand qui s'appelle Rauchtig, qui en 1938 comprend que son patron est en train de partir en cacahuète complètement, réussit à s'enfuir aux États-Unis. Et là-bas, il écrit un livre qui s'appelle « Hitler m'a dit ». Les différentes discussions qu'il a eues avec lui, un jour, il demande à Hitler pourquoi les Juifs. Et Hitler de répondre « Parce que l'Europe a été fondée sur deux piliers, la sagesse et la morale. La sagesse nous vient de la culture gréco-romaine et la morale d'Israël. Or, la morale a affaibli l'Europe. Il faut se débarrasser de la morale, se débarrasser d'Israël. » Il avait compris qu'Israël représente les bases de la morale du monde. Si Israël, au sein du peuple d'Israël, ses valeurs morales de base ne sont plus là et qu'on est devenu Sdom, ça, c'est Kavadom. C'est la ligne rouge qui fait qu'Am Israël, il sort en guerre et il dit « Non, c'est pas possible. Nous, on n'acceptera pas un truc comme ça. » Très bien. וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין למור מה רע הזאת אשר נהייתה בכם ואתה תנו את האנשים בני בליעל אשר גבעה ונמיתם ונעברה הרע מישראל ולא אהבו ידיזו בני בנימין voilà, vous savez toute l'histoire, donnez-nous les gens de Giva, comme ça on détruira ce mal dans le peuple juif. C'est-à-dire qu'au départ on n'est pas là pour tuer les bnei Binyamin, on veut mettre au courant les bnei Binyamin qu'il y a un vrai problème chez eux. Et Bnei Binyamin, ils viennent et ils disent « Non, non, emshelanu, velo ava, velo avu bnei Israël, velo avu Binyamin nishmoa bekol achehem bnei Israël. Vayasefu bnei Binyamin minaharim magivata latzet lemilchamaim bnei Israël. Vayitpakedu bnei Binyamin bayom ahu, meharim 26,000 ish sholef charev, levad miyoshvei hagivah, itpakedu 700 ish bachur. » Ils sont 26 000, les Bnei Binyamin. Vous comprenez bien que ces chiffres-là ne sont pas par hasard. Les Bnei Binyamin, ils vont se battre contre les Bnei Israël. Mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est-à-dire qu'ils veulent protéger leurs frères. Il y a un sentiment de fraternité qui est profond chez eux. C'est bien. Mais c'est pas bien là. C'est-à-dire qu'ils viennent en 26 000, ils viennent au nom de Dieu pour dire non, la chva, doute dans l'âme Israël, c'est très important. Mais sauf qu'eux, ils ne le vivent que dans leur tribu. C'est-à-dire qu'ils représentent quelque chose de positif, mais qui est très mal exécuté. De la même façon que eux, là aussi, les Bnei Israël représentent quelque chose de positif, mais ils sont portés par des gens qui l'exécutent mal. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, commencent les combats. Véiné. Vayasfou, donc on a dit, voilà. Verset Tetzain. Je suis cette fois au chapitre, on est rentré dans le chapitre Kaf, hein, évidemment. Mikol ha'am hazé, sheva meot ish bachur, iter yad yemino, kol ze kol lea ba'even, ela se'ara velo yachati. Bon, ce sont tous des grands tireurs d'élite, les gens de Binyamin. ויש ישראל יתפקדו לבד מבני בנימין 400,000 איש שולף חרב, כל זה איש מלחמה. ויקומו ויעלו בדל וישאלו באלוהים, ואמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר השם, יהודה בתחילה. ובני ישראל יסובבים avec eux et ils ont amené avec eux l'Aaron הברית. Puisque le seul endroit où on a le droit de l'ishol באורים ותומים, c'est là où il y a l'Aaron הברית. Donc ça veut dire qu'ils étaient avec Aaron הברית. Ils sont avec Aaron הברית. Et Becholzot, ils vont demander donc qui doit être le premier à mener la guerre. Omer Hachem Yehuda Yale. C'est Yehuda qui va mener la guerre. Et on va voir que, ben voilà, lorsque la guerre commence, Beine, Yehuda Yale, Vayakumo Bene Israël, Vaboker, Vayakhanu ala Giva, Vayetse Ish Israël, la Milchama, Binyamin, Vayakhu Itam Ish Israël, la Milchama, Ada Giva, Vayetsu Bene Binyamin, Na Giva, Vayeshriva, Shritu Bene Israël, Vayom Ahu. 22,000 ish arza. Et on perd. Les Bnei Israël perdent face aux Bnei Binyamin. Et Bnei Binyamin tue 22 000 chez les Bnei Israël. Là aussi, ce chiffre n'est pas anodin. 22 000, c'est le nombre des Lévi'im dans le décompte, dans le désert. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un problème chez les Lévi'im qui étaient censés éduquer et rassembler le peuple juif. Ben, ils ont complètement manqué à leur rôle. Mais je ne comprends pas, si c'est Dieu qui a dit « Yehuda, Yahale, Batechila », on devrait gagner. Ben non. Parce qu'il y a un problème de Bethléem Yehuda. Tout a commencé là-bas. Donc, on est dans une situation où les Lévi'im n'ont pas fait leur rôle de réunion du peuple juif, où les Béné Binyamin sont descendus Bechefe la Madriga, et où les Béné Yehuda ne prennent pas leur responsabilité de dirigeant. Asma Koré. Ben finalement, il va avoir une deuxième attaque. Et chouf pas à mon père, parce qu'on n'a pas réglé les problèmes. Mais lorsque finalement, on redemande à Hachem, Ine, vaya alu kol bene Israël, vecholam, vaya vou betel, vaifku, vaya chvou sham lifne Hachem, vaya tsumu bayomaou, ada erev, vaya alu olot ushlamim lifne Hachem, vaya chalou bene Israël ba Hachem, ושם אהרון ברית האלוהים בימים ההם, ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם, למור, האוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין, אחי, אם אחדל, ואומר השם, עלו כי מחר אתננו בידיך. À la fin de l'histoire, les בני ישראל comprennent que eux aussi ont un problème de אחדות. ויבכו, ויצומו, ויעלו עולות. Béné Israël vont faire tchouva eux aussi. Ils sont portés cette fois par Pinchas ben Eleazar Cohen. Ce même Pinchas qui, dans la paracha de cette semaine, va tout simplement montrer que l'honneur du peuple juif ne peut pas être dévoyé. Et c'est lui qui va faire le maasé Pinchas face à Zimri et Cosby. Cette fois, Amisraël a compris. Et d'où on le sait ? Eh bien, parce qu'il appelle Binyamin avec toute l'animosité qu'ils ont pour eux. Et donc à partir de ce moment-là, Zéou. Dieu a vu que Bnei Israël ont compris l'erreur et dit c'est bon, maintenant vous allez vous battre et cette fois vous allez gagner. Et la suite de l'histoire, elle est très simple. Béhémet, Am Israël, va partir en guerre une troisième fois. Béhémet, on va gagner. Seulement, on va trop gagner. On va trop gagner et finalement, eh bien, vu que les Binyamin ont jeté toute leur force dans ce combat et vont être battus, eh bien, on va finir par pratiquement décimer toute la tribu de Binyamin. Il ne restera plus que 400 hommes. Le problème, c'est qu'avant de faire tchouva, hein, les Béné Israël avaient promis, avaient fait un serment, comme quoi plus personne ne donnerait leur fille au Béné Binyamin. Et maintenant qu'il ne reste plus que 400 Béné Binyamin, comment vont-ils se marier, ces gens-là? Il va falloir trouver un stratagème. Eux, ils ont promis de plus donner leur fille. Donc, on va d'abord aller s'occuper d'une autre ville. Une ville qui n'a pas prêté main forte au Bnei Israël pour se battre. Et qui donc, eux, on va donner leur fille au Bnei Binyamin. Et on va aller faire aussi Khatifat Abanot Beshilo. Tout est organisé, vous inquiétez pas. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la fin de l'histoire. Lorsque les Bnei Binyamin, les 400 derniers Bnei Binyamin, parce qu'on ne veut pas détruire un chevet de Béisraël. On a compris maintenant qu'on a besoin d'être véritablement ensemble. Donc, qu'est-ce qui va sortir de toute cette histoire? Eh bien, c'est très simple. Ce qui va sortir de toute cette histoire, c'est qu'au final, de ces 400 femmes qui vont être prises par les Béné Binyamin pour femmes, eh bien, le Talmud nous dira qu'en fait, il n'y en a que 399 qui sont prises par les hommes de Binyamin et il y en a une qui est Rotefet Oto. C'est-à-dire une femme qui va prendre le 400e homme de Binyamin. Pourquoi? Parce que ce 400e homme de Binyamin, il est trop de sa noix. Non, moi, je ne veux pas y aller. Et donc, c'est cette dernière femme qui dit, bon, allez, viens, toi, tu me maries avec moi. Nous dirons nos sages que c'est qui ce monsieur-là? Et nos sages vont nous dire, ce monsieur-là, c'est Shaoul. C'est Shaoul, mi Binyamin, qui est sa noix meod, ish tzadik meod. Et donc, finalement, toute cette histoire va amener à la prise de conscience que Binyamin ou Achi, que même dans le peuple juif, s'il y en a un qui part en cacahuète, on ne peut pas se détacher, se désolidariser. Nachon, des fois, on va énormément dire « Zélo Besséder ce que tu fais ». Il va falloir corriger les problèmes au sein du pays. Mais pas parce qu'il y a une population dans ce pays qui part en cacahuète. Eh bien, on a le droit de dire « Ah, vous n'êtes plus avec nous !» Enfin, Amisraël comprend qu'il fait partie d'une seule et même unité. Et de cette histoire-là, du sang, des larmes, du drame de cette histoire-là, va sortir Shaoul. Et Shaoul deviendra le premier roi d'Israël qui va réunir le peuple juif. En d'autres termes, la dernière histoire du livre de Shoftim, Kariné, nous arrivons à la fin de l'histoire. Et à la fin de l'histoire, on nous dit, je saute plein de versets, et j'arrive donc à la toute fin du livre de Shoftim, et on nous dit la chose suivante. Dans le verset Kaf Dalet du livre du chapitre Kaf Aleph, Veit alechu misham bene Israël baetai ish le shifto le mishparto, veitseu misham ish le nachalato. On a réuni tout le monde, chacun, maintenant on a compris qu'on était réunis, la guerre est terminée, tout le monde retourne dans sa tribu. Ubayamim haem en melech beIsrael, ish hayashar beinav yaaseh. Cette phrase qui a été le point d'ouverture de cette paracha-là, qui a été le point de problème de, de cette paracha-là, est en fait la phrase annonciatrice, la phrase spoiler de l'enjeu du livre de Shmuel, c'est-à-dire de mettre en place la Malchut Israël, qui non seulement pourra réunir le peuple juif pour de vrai, mais qui pourra, fort de cette union retrouvée, eh bien, dévoiler celui qui est Behemet Echad ou Shmo Echad. Ça sera ça, le but du livre de Shmuel. Le livre de Yehoshua avait pour objectif de nous montrer l'importance de la terre d'Israël, l'importance de l'appartenance à la terre d'Israël pour le peuple d'Israël et l'importance de la Torah d'Israël. Le livre de Shoftim nous montre que Am Israël, même s'il se comporte mal, n'est pas abandonné par Dieu. Il nous apprend que des fois, il faut savoir faire preuve de règles qui ne sont pas les règles générales. Mais dans des cas particuliers, il faut savoir également prendre sur soi d'être le seul Ish Babayit. Et il faut, quoi qu'il arrive, garder cet idéal d'union du peuple juif comme étant l'union, comme étant l'idéal numéro un. Fort de ces deux livres-là, Yehoshua et Shoftim, on peut enfin arriver dans l'idéal de la prophétie avec la construction de Malchut Israël. Ça va être le propre, comme je l'ai dit, du livre de Shmuel que nous allons commencer à étudier dès la semaine prochaine. Et donc, la semaine prochaine, nous nous intéresserons au livre de Shmuel, chapitre Aleph Vebet. Et ça sera la semaine prochaine. À bientôt, les amis. Shabbat Shalom.